Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Et on s'intéresse ce matin au plaisir de pédaler. La pratique du vélo qui rassemble de plus en plus d'adeptes dans ce que certains appellent une vélorution. Nous verrons comment la pratique de la bicyclette exalte le corps et l'esprit. Pourquoi le vélo est-il souvent vécu comme un pied de nez aux valeurs de nos sociétés hypermodernes? Pourquoi le vélo rend plus vivant ceux qui le pratiquent passionnément? Par quelle magie la petite reine réenchante le temps et l'espace? Quelles sont également les entraves au plaisir de pédaler dans certaines villes? Racontez-nous votre plaisir de faire du vélo au 01 45 24 7000, sans oublier la page Facebook de Grand Main vous fasse et l'appli France Inter. Coup de projecteur également sur le rapport de l'ANSES consacré à l'activité physique jugée insuffisante des 11-17 ans. Bonjour Thierry Lhermitte.
Bonjour Ali Rebéi.
Ambassadeur de la Fondation pour la Recherche Médicale, vous visitez des labos de recherche tous les mois. Qui avez-vous suivi ?
Eh bien, j'ai rencontré Bruno Canard qui m'a ouvert les portes de son laboratoire à Marseille et il s'occupe de coronavirus, c'est ça dont on va parler, c'est d'actualité aujourd'hui.
A tout à l'heure Thierry, bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rebéi, Grand Bien vous fasse.
Bonjour David Le Breton.
Bonjour Ali.
Vous êtes en duplex de France Bleu Alsace et c'est toujours un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Vous êtes anthropologue, merci, professeur de sociologie à l'Université de Strasbourg, membre de l'Institut Universitaire de France et vous venez de publier En roue libre aux éditions Terre Urbaine. Bonjour Olivier Razemont.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, journaliste au Monde notamment. Vous avez notamment publié Le pouvoir de la pédale, comment le vélo transforme nos sociétés cabossées aux éditions Rue de l'Échiquier. Alors David Le Breton, on vous connaît pour vos livres profonds et magnifiques consacrés à la marche, mais je ne savais pas que vous étiez également un amoureux du vélo.
Ben, oui, parce que je ne peux pas marcher toujours, ça implique quand même souvent du temps, une disponibilité. En revanche, je peux vous dire que tous les jours, vraiment tous les jours, j'utilise à plusieurs reprises mon vélo pour aller par exemple à mon boulot, pour aller faire des courses, pour me balader également. C'est-à-dire que le vélo est vraiment un instrument royal finalement pour se déplacer dans la ville. À la fois, il conjugue évidemment bien des bonheurs qui sont associés à la marche, mais en même temps, il procure, dans le contexte en tous les cas urbain, il procure une espèce de vitesse, une certitude d'arriver à l'heure. Hein, quand je suis parti ce matin pour me rendre dans les studios de Radio Bleu, je n'ai pas eu besoin de partir une demi-heure avant en me disant que je n'allais pas trouver de place de parking ou que je risquais d'être pris dans des embouteillages. Je savais absolument à quel moment j'allais arriver. Voilà, puis en même temps, ben, vous voyez, j'arrive en pleine forme. Si j'avais pris ma voiture, je serais arrivé peut-être agacé d'avoir dû chercher une place en vain pendant longtemps. Voilà, donc voilà, le vélo, c'est aussi un bel instrument, donc une activité physique, un bonheur, voilà.
Petit point sémantique, les puristes aiment opposer le vélo et la bicyclette. Hein. Dans la première gorgée de bière, Philippe Delerme écrit ceci, une silhouette profilée, mauve, dévale à 70 à l'heure, c'est du vélo. Deux lycéennes, côte à côte, traversant un pont à Bruges, c'est de la bicyclette. Olivier Razemont.
C'est amusant parce que moi, j'ai pas du tout cette vision-là, et j'ai pas du tout l'impression qu'il y ait cette vision-là, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que chacun a son image du vélo. Tout le monde sait ce que c'est, cet objet qui est très simple à utiliser, mais qui a quand même 1000 pièces, plus de 1000 pièces en fait, hein, qui sont assemblées. C'est un objet qui est très connu, qui fascine un petit peu parce qu'il permet tout ce que vient de dire, je dirais pas mieux, hein, David Le Breton. Et puis, en même temps, c'est aussi un objet qui rend un peu jaloux parfois parce que le cycliste va vite, il passe les embouteillages. C'est un objet qui peut faire des frictions à certains moments. Donc chacun a son image du vélo. Et donc pourquoi pas celle-ci. Moi, j'ai pas du tout cette impression, mais pourquoi pas.
David Le Breton.
Oui, je trouve que c'est une vision un peu trop hiérarchique. Moi aussi, je suis d'accord avec Olivier, ça me gêne un petit peu. Bon, moi, je ne me suis jamais préoccupé de savoir si le vélo que j'utilise pouvait être nommé bicyclette par les uns ou vélo par les autres. Ça m'est bien égal. Mmh. Ce qui compte, c'est plutôt le plaisir qu'on éprouve à le prendre et puis à circuler, à se balader avec.
Alors, la grande période d'engouement pour le vélo dans notre pays se déroule dans les années 1930-1940. Nous vivons à nouveau un immense engouement pour la bicyclette, une vélorution selon certains, Olivier Razemont.
Oui, c'est très intéressant ce qui s'est passé cette année, au-delà de la crise que nous vivons. Face à cette crise sanitaire globale et surtout qui collective en fait. Chacun a voulu se réapproprier un peu sa vie, son corps aussi, sa manière de se déplacer. Et on a assisté partout dans le monde, vraiment partout dans le monde. Alors en France nettement plus parce qu'il y avait un retard et qui a été en partie rattrapé. Mais on a assisté partout à un engouement pour le vélo et notamment pour le vélo quotidien. C'est-à-dire que l'idée c'est on se déplace pour aller quelque part, pour aller faire des courses, pour aller au travail, pour aller voir des amis, etc. Et enfin quand c'est possible. Et donc y a cet engouement, il est, je pense qu'il est lié. D'abord, ben il y a la proximité parce que on voit bien là, on est dans les 20 kilomètres. Il y a eu un moment, il y a eu les 100 kilomètres, il y a eu un moment, il y a eu le kilomètre.
La limitation de déplacement.
Voilà, limitation de déplacement. On est dans cette proximité là, et donc on se réapproprie un peu son quartier, son village, son environnement. Il y a l'envie de faire de l'exercice physique parce que tous ces confinements, finalement, ben, rester assis sur une chaise tout le temps, ça devient, on a envie de bouger. Et puis il y a aussi le vélo en soi est un fameux geste barrière. Alors geste barrière, c'est quelque chose que personne, tout le monde ignorait il y a un an, mais c'est simplement ça permet d'être à distance les uns des autres par définition, parce que la taille du vélo fait qu'on est à distance. Donc tout ça fait que on sait. Je pense que dans cet engouement-là, je vois une envie de se réapproprier sa vie face à des événements qui nous dépassent.
David Le Breton.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Bien entendu, le terme vélorussion d'ailleurs est assez ancien. Il date des années 70. Et il a, c'est un processus en fait qui vient de loin, cette révolution du vélo. Je me souviens de Strasbourg il y a une vingtaine d'années par exemple, avec cette saturation du centre-ville, cette saturation de tous les lieux. Je faisais de saturation automobile bien entendu. À l'époque, je faisais aussi du vélo bien entendu, mais en même temps, c'était pas toujours très commode de louvoyer entre des voitures extrêmement indifférentes aux cyclistes. Et donc progressivement, on a vu par exemple dans la ville un aménagement des pistes cyclables, on a vu des nouvelles politiques urbaines avec l'éloignement, la piétonnisation du centre-ville, mais en même temps l'autorisation des cyclistes de pouvoir circuler dans ces lieux piétonniers par priorité. Et donc on a vu progressivement une sorte de respiration s'ouvrir dans nos villes, en tous les cas dans beaucoup de villes, pas dans toutes évidemment, certaines sont un petit peu en retard. Et donc ces derniers mois avec la crise sanitaire, je crois qu'en effet des millions de nos contemporains ont découvert le bonheur de circuler en vélo avec cette espèce d'aisance, de tranquillité, de ne devoir rien à personne, être sûr d'arriver à temps. Également le bonheur d'une activité physique dans cette humanité assise que j'ai si souvent dénoncée dans, par exemple dans mes livres sur la marche. Mais le vélo est aussi une merveilleuse manière de se remettre debout, de reprendre le monde à bras-le-corps, de se sentir à nouveau vivant, quoi, dans la sensorialité du monde. Puis avec cette tranquillité que nous procure le vélo, on peut s'arrêter quand on veut. Bien entendu, il faut aller le cadenasser dans un coin et être sûr qu'on ne va pas vous le dérober pendant ce temps-là. Mais je crois que on a tous une sorte d'intuition pour savoir où le mettre à peu près, pour qu'il soit à peu près protégé. Donc voilà, le vélo conjugue énormément d'avantages et c'est vraiment pour moi l'instrument royal de la ville.
En 2020, quelle est la part du vélo dans les déplacements quotidiens des Français et quelle est la part du vélo dans leurs loisirs, Olivier Razman?
Alors en fait, on ne sait pas encore. On avait en termes de déplacement, on avait 2% il y a quelques années. On est peut-être à 4. C'est possible qu'on soit à 4 à vue de nez quand on regarde les chiffres des compteurs dans toutes les villes, en tout cas pour les déplacements quotidiens. Cela dit, il y a des endroits où ça continue de baisser, notamment dans les il y a une étude qui a été faite à la fin de l'année dernière qui montre que dans les régions périurbaines l'usage du vélo continue de baisser parce qu'en fait on continue d'aménager l'ensemble de la nouvelle ville pour seulement pour la voiture sans réfléchir une seconde. On fait ça parce que c'est normal, parce que c'est comme ça, parce que tout le monde l'a toujours fait comme ça. Donc on aménage la ville pour la voiture et à cet endroit-là, la part du vélo continue à baisser. Et là, on peut imaginer qu'on sera à 4. Il y a un objectif du gouvernement qui consiste à arriver à 9% en 2030, ce qui resterait inférieur à la plupart des pays européens.
Et la part du vélo dans les loisirs ?
Alors là aussi, c'est difficile. Il y a eu une augmentation cette année. Il y a eu certaines pistes cyclables ou certains itinéraires ont fait plus 20%, notamment la Via Rhônale, le long du Rhône, par exemple. C'est encore un peu tôt pour savoir, mais c'est ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas été seulement justement le vélo urbain, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de cyclotourisme cette année, parce que les gens là aussi voulaient se réapproprier et puis se sont dit après tout, il y a une forme de tranquillité. Hein. Là encore, David Le Breton l'a mieux dit que moi, mais une forme de tranquillité, de sérénité quand on se déplace à vélo.
Écoutons le journaliste et écrivain Éric Fotorino.
On n'est jamais immobile, évidemment. Tout tourne, les roues tournent, les jambes tournent. et la mémoire tourne, quoi. Donc effectivement, c'est une sorte de rotation permanente. Et même si on veut avoir presque une vision cosmique, les jambes tournent sur la Terre qui tourne. Donc on est vraiment en harmonie avec l'univers, même si on ne voit pas la Terre tourner. On a cette sensation que de l'harmonie, le pédalier, les bruits de la chaîne sur le vélo, le bruit des vitesses. C'est vrai que, et quand le vent souffle, par exemple, dans le vélo, on a le sentiment quelquefois qu'on est sur un catamaran, ça siffle énormément et ça fait un bruit extraordinaire. Et comme si on était un bateau, non pas au milieu de la mer, mais au milieu de la campagne, des paysages même quelquefois rocailleux ou montagneux.
Le journaliste Eric Fotorino sur France Culture en juillet 2001. David Le Breton.
Oui, je crois évidemment qu'on ressent un petit peu moins ce sentiment cosmique, cette harmonie avec l'univers, quand on est par exemple dans des déplacements un peu plus fonctionnels, quand par exemple on va à son boulot en ville. Mais en revanche, quand on se balade, effectivement, on éprouve ce sentiment d'alliance avec le monde, ce sentiment d'harmonie, ce sentiment d'être plongé dans les éléments, avec le vent, avec ce sentiment aussi d'ailleurs de flotter sur l'espace, hein, qui a énormément frappé les premiers cyclistes, hein, de la fin du 19e siècle. Je pense à des écrivains comme Maurice Leblanc, comme Jules Renard, comme Mark Twain, etc. J'étais étonné en relisant ces vieux textes de l'importance de la métaphore des ailes, hein, s'envoler, de planer, de voler sur l'espace, etc. Et je crois qu'on ressent effectivement ça, mais plus quand on est dans une balade, quand on a du temps devant soi, quoi. Par contre, évidemment, quand on est dans un déplacement plus fonctionnel, mais il en irait exactement de même de la marche, hein. On est moins attentif à tout ça.
Olivier Razemont.
Encore que quand on a l'habitude de faire un déplacement, on s'aperçoit, et les quelques données permettent de le constater, que des cyclistes parfois changent d'itinéraire juste pour le plaisir, en fait. Au lieu de passer toujours par le même endroit, ils disent, tiens, si je passais par là, peut-être que je vais mettre 2 minutes de plus, mais après tout, je connais pas bien cette rue, ça me permettra de voir autre chose. Et donc, il y a aussi cette liberté-là, permanente, d'arbitrer en permanence, il suffit de tourner le guidon, en faisant bien sûr attention aux piétons, mais enfin voilà, c'est assez simple. Eric Fotorino a comparé au catamaran, moi j'ai envie de comparer au ski. J'ai eu l'occasion il y a quelques semaines de faire 3 jours de vélo dans le Vaucluse, en fait, dans un environnement avec des collines, des vignes, un environnement absolument magnifique, et très franchement j'ai eu vraiment le sentiment, en redescendant de ce petit massif, d'avoir fait 3 jours de ski. C'était bizarre, je m'attendais pas à ça.
David Le Breton, vous écrivez que le vélo est un pied de nez aux valeurs ultralibérales de nos sociétés contemporaine, comme la marche d'ailleurs. Expliquez-nous votre point de vue.
Oh, parce que c'est évidemment une sorte de retour à une lenteur. Bon, c'est pas la lenteur de la marche, on va un petit peu plus vite en vélo, mais en même temps on va beaucoup moins vite qu'en voiture, encore qu'il faut relativiser, parce que quand on est en ville, il est clair que très souvent le vélo est infiniment plus rapide que la voiture. Quand je vais par exemple à la fac, en partant de chez moi, de Schiltigheim, je mets à peu près, les très très rares fois où je suis obligé de prendre ma voiture, parce que par exemple j'ai des colis un peu lourds à emmener, je mets en gros une demi-heure en voiture. Je mets 20 minutes en vélo, 15-20 minutes en vélo. Et je mets 40-45 minutes en gros pour aller si je vais à pied. Donc c'est une manière de reprendre son temps aussi, de flâner. Et effectivement, Olivier a tout à fait raison de dire qu'il y a des moments où on a envie de se balader. Alors on change un petit peu son itinéraire. On est donc dans une espèce de gratuité qui est absolument opposée, évidemment, aux valeurs ultralibérales de nos sociétés où tout doit être utile, servir à quelque chose. Sinon, si ça ne sert à rien, on éjecte, etc. Et donc, la rapidité, la vitesse, etc., sont des valeurs éminemment essentielles dans nos sociétés. Là, non, le cycliste, il avance le nez au vent, il est tranquille, il s'arrête quand il veut, il accélère, il ralentit, bon, voilà. Il est un flâneur. Et la flânerie dans nos sociétés est devenue une valeur éminemment révolutionnaire, d'une certaine manière. C'est un monde de pionniers aussi. On pourrait dire, je me souviens d'avoir fait un clin d'œil à Jacques Lacarrière, un vieux texte de Jacques Lacarrière qui disait autrefois que les marcheurs étaient un peu des pionniers qui allaient à la reconquête du monde, et ils ne savaient pas à quel point il aurait raison dans les décennies qui allaient suivre. Mais aujourd'hui, il est clair que nous autres cyclistes, nous sommes des pionniers d'un nouveau monde pour une ville plus conviviale, plus heureuse, une ville qui soit davantage dans l'harmonie, dans le respect les uns les autres, dans la civilisation. mobilité. Alors que l'automobile, elle est beaucoup trop puissante, je veux dire, elle n'a pas sa place dans la ville avec une telle ampleur, en tous les cas. Il faut lui trouver une place plus modeste et favoriser cette espèce de coexistence des moyens, des mobilités aujourd'hui.
Olivier Razemont.
Je dirais que le vélo a beaucoup de choses qui font que c'est un objet contre-intuitif. En fait, souvent, en ville notamment, ou dans un environnement urbain, plus généralement, pas seulement en centre-ville, c'est plus rapide en effet, c'est plus efficace, c'est beaucoup moins cher à l'usage, on est moins orienté vers l'hyperconsommation, il y a moins cette espèce d'idée que plus on est riche, plus on va acquérir un moyen de transport encore plus cher, parce qu'au bout d'un moment, en fait, ça sert plus à rien d'avoir quelque chose qui va très très vite dans un environnement contraint. Donc on est moins dans la consommation, on est déconnecté aussi, tout simplement, quand on est à vélo. Alors on peut aussi, d'abord on ne regarde pas son téléphone, en principe, et puis ne pas le prendre avec soi, tout simplement, et donc être intraçable. Donc ça permet quand même d'être assez... cette autonomie, voilà, procure quelque chose qui peut faire passer le vélo pour, comment c'était, anticapitaliste ou antilibéral, mais au-delà de ça, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a aussi un peu des tribus de cyclistes qui sont pas du tout anti-libérales, au contraire, qui le sont tout à fait volontiers. Il y a le vélo écolo, il y a le vélo cato, par exemple, il y a le vélo bobo, il y a le vélo prolo. Il y a toute une série d'usages aussi du vélo. On le voit aussi de plus en plus, c'est vrai, dans les villes aujourd'hui. Un usage du vélo mélange sportif, déplacement, plaisir des jeunes, des quartiers pauvres qui l'utilisent en disant, voilà, j'en ai vu hier, comme ça, qui dérapaient dans la rue, ça les amusait beaucoup.
David Le Breton, vous parliez de civilité à propos des cyclistes. J'ai tout de même parfois l'impression que certains cyclistes vous font bien sentir qu'ils sont dans le sens de l'histoire, dans le camp du bien à coups de sonnettes intempestives quand vous entravez leur trajet. Pour être honnête, le piéton que je suis oublie parfois que le cycliste est silencieux dans ses déambulations et que les piétons oublient leur présence, surtout quand on est pendu à son téléphone. Donc, tort partagé, mon cher David Le Breton.
Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai que c'est d'ailleurs souvent très agaçant de voir tous ces adeptes du portable prosternés. Hein, j'aime bien utiliser ce mot parce que c'est un terme religieux, mais il y a une véritable prosternation aujourd'hui dans le monde contemporain sur le portable. Et ça crée effectivement des dangers dont les piétons ne se rendent absolument pas compte. Hein. Vous cheminez paisiblement sur votre piste cyclable et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un en grande discussion qui se déporte devant vous. Voilà. Ceci dit, j'ai quand même envie de rappeler que les civilités que nous connaissons le plus en tant que cyclistes, ce sont celles quand même des voitures, des automobilistes. Là, je peux vous dire que quand je vais à mon travail en vélo, je croise à peu près un automobiliste sur deux qui ne met pas son clignotant. Alors que ce sont parfois dans des endroits très dangereux, où ils vont tourner à droite, où ils vont tourner à gauche. Et je rappelle aussi d'ailleurs que s'il y a eu une diminution très importante du nombre de morts sur la route grâce à la diminution de la vitesse, on a malheureusement vu augmenter le nombre de victimes sur deux roues motorisées ou deux roues cyclistes. Et pour moi, là, c'est clair que notamment cette absence de clignotant est absolument redoutable dans la ville. Et puis, au-delà de tout ça, vous avez les portes qui s'ouvrent en pleine piste cyclable, les pistes cyclables parfois utilisées comme des lieux pour se garer ou des lieux de livraison, etc. Bon, d'une certaine manière, c'est vrai que l'usage du vélo nous renvoie aussi au mode de civilité de nos sociétés contemporaines, où on n'est pas toujours très attentif aux uns aux autres, malheureusement.
Olivier Razemont.
C'est un objet nouveau, donc forcément, il y a des frictions nouvelles, il faut apprendre à le domestiquer, et quand on regarde les endroits, les villes, les pays, Fribourg par exemple, pas très loin de Strasbourg où est David, on s'aperçoit que les gens ont appris à être des cyclistes urbains, et c'est pas la même chose. Quand on est un cycliste urbain dans un environnement très contraint, sur une piste cyclable où il y a beaucoup de monde, il y a moins de plaisir. On se suit les uns après les autres. C'est un moyen de transport. C'est sans doute plus agréable que le bus, mais c'est un moyen de transport. Et donc, il faut faire attention. Et ça s'apprend. Et dans les grandes villes françaises, on n'en est pas encore. On commence à peine à être à cet apprentissage-là.
Stéphane nous écrit plaisir de se déplacer en ville sans bouchon, sans problème de parking, plaisir des petites routes et des chemins de campagne, plaisir d'arriver au sommet d'un col de montagne et de redescendre sur 20 km, plaisir de partir en vacances sans contrainte, mais également danger des automobilistes inconscients qui frôlent les cyclistes et parfois les percutent et les tuent. Plaisir du vélo à partager et à faire connaître. Et vous, racontez-nous le plaisir que vous éprouvez à pédaler en ville et dans la nature au 01 45 24 7000 et sur l'application France Inter. Alexia Rivière et Julia Macarès m'ont aidé à préparer cette émission avec l'aide de Manon Cancé. À la technique ce matin, Rémi Sistiaga et Pierre-Yves de Rolin. À la réalisation, Stéphanie Texier. Et on écoute Travis Singh.
So crazy lately, nothing seems to be going right. So low, why'd you have to get so low? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing, sing.
Interpréter Sing.
Alors le vélo, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas compliqué.
Grand bien vous fasse.
Vous avez des pédales. Plus vous appuyez, plus vous allez vite. Plus vous allez vite, plus vous êtes épanoui.
Sur France Inter.
10h30 et nous attendons ce matin tous vos témoignages sur les plaisirs du vélo 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter.
On parlait de la quintessence un peu du bonheur. Je pense que le vélo m'a, et la course de vélo quand j'étais plus jeune, là je ne fais plus de course, m'a vraiment apporté du bonheur. Parce que j'ai eu l'impression que je pouvais être moi-même, que je m'échappais de tout, du monde des adultes, de tous les emmerdements, de tous les emmerdeurs, de tout ce qui fait qu'à un moment donné, ben vous êtes rattrapé. Ben non, sur un vélo, moi je circule même à Paris, dans Paris à vélo, ben je sais que j'ai toujours comme ça 20 minutes, une demi-heure où c'est du temps vraiment à moi. J'aimerais qu'il y ait moins de voitures, mais c'est autre chose.
D'ailleurs, ça, on revient à l'histoire de votre famille, parce que je crois que c'est votre père adoptif,
oui,
qui vous
Michel,
a mis sur un vélo.
Absolument.
Et qui vous a donné le goût de la course aussi.
Il m'a fait monter le Tourmalet quand j'avais 13 ans. Et il s'est passé quelque chose de très fort et très émouvant en même temps, c'est que je l'ai lâché. Parce que j'avais 13 ans, j'avais des petites cannes et j'avais pas de poids. Et bon, lui, il avait son âge. Et il était heureux. Il était heureux que je sois allé en haut. Et vous voyez, tout ce que j'ai pu connaître, comme nous tous, dans nos vies, des moments quelquefois très difficiles, eh bien, je me suis toujours dit, c'est quand même moins dur que de monter le Tourmalet.
Le journaliste et écrivain Éric Fotorino sur France Culture en 2017. Olivier Razemont, je rappelle que vous êtes journaliste et écrivain. Qu'est-ce qui vous rend heureux quand vous êtes sur un vélo?
Ça dépend. Le bruit des petits cliquetis des pas le bruit de la circulation, le petit cliquetis des passages des vitesses ou le contact, le claquement des petits cailloux parfois quand on est sur un chemin de montagne, la certitude d'arriver un soir de novembre, 23h en temps normal, on rentre, on sait il pleut un peu. Pleuvine. Il y a différentes pluies quand on est à vélo. On sait qu'il y a différentes pluies. Il y a la grosse pluie, on s'arrête là, on va se cacher. Mais par contre, la petite pluie, il n'y a pas de problème. Un soir de novembre, il pleut. On va mettre 25 minutes. On sait qu'on va mettre 25 minutes. On sera rentré, on pourra se coucher ou se réchauffer. Ça, c'est un grand plaisir.
Et vous, David Le Breton, je rappelle que vous êtes anthropologue et que vous avez publié En roue libre.
Moi, j'éprouve un sentiment d'insouciance, d'apaisement. Je pense que ce sont aussi pour moi des moments d'intériorité où je pense à la journée à venir, je pense à la journée qui a déjà été effectuée. C'est vrai, parfois en rentrant, par exemple, de déplacement en train, quand je prends mon vélo à la gare et que je chemine vers la ville où je vis, j'ai à peu près 20-25 minutes de vélo. Il est tard, je ressens bien effectivement ce que vient de dire Olivier, ce sentiment d'une appartenance, ce sentiment que la nuit est une sorte d'écrin qui vous enveloppe, c'est un monde silencieux, il n'y a pratiquement plus de voitures, on a l'impression que le monde est à nous d'une certaine manière et en même temps on avance à un bon rythme.
David Le Breton, rouler à vélo, c'est voir le paysage comme dans un travelling avant, la vue c'est le sens privilégié du cycliste hein.
C'est vrai, mais en même temps, faut pas oublier le son quand même.
Exactement.
Parce que là, parce qu'il y a quand même les voitures qui passent, qui vous frôlent en effet, qui peuvent être extrêmement dangereuses. J'ai l'impression que il y a quand même une conjugaison des sens dans le vélo. Peut-être un tout petit peu moins que dans la marche, parce que dans la marche, on est vraiment totalement immergé et dans un corps à corps plus immédiat. Mais dans le vélo quand même, on peut aussi sentir les odeurs. Par exemple, si vous faites du vélo sur les sentiers, sur les pistes de VTT, etc., vous allez quand même sentir énormément de choses. Vous allez avoir envie peut-être aussi de vous arrêter pour toucher un arbre, pour vous rafraîchir à une source fraîche, etc. Mais en même temps, bien entendu, il y a le bonheur de voir. Vous avez raison, c'est quand même le sens privilégié, parce que c'est aussi quand même le sens de la sécurité. Mmh. Il faut absolument qu'on voit où on avance. Mais c'est un sens de la sécurité qui est étayé par le sens de l'ouïe.
Et à vélo, et vous l'écrivez, on s'immerge en permanence dans la sensorialité du monde.
Oui, voilà, c'est pour ça qu'on se sent vivant, un peu comme dans la marche. On a l'impression de s'appartenir, on a l'impression de... Et puis en même temps, il y a l'effort, cet effort tranquille. Là aussi, on pourrait dire un petit peu comme dans la marche, mais un tout petit peu plus accentué, mais à peine. Donc vous sentez que vous avez un corps, vous sentez vos muscles, comme vous décidez vous-même de la vitesse qui est la vôtre, eh bien, vous n'allez pas au-delà de vos forces. Donc vous sentez vivre, vous sentez votre corps qui bat d'une certaine manière. Et puis très souvent aussi, on plonge dans ses souvenirs d'enfance, un peu comme à la manière de Fotorino, d'Éric Fotorino. On se rappelle les premiers moments où on a découvert le vélo, les moments où on s'est libéré de la tutelle de nos parents. Et je crois qu'il y a toujours aussi un peu ça quand on monte sur son vélo, le retour de la mémoire et puis un temps présent très intense.
Et puis n'oublions pas, David Le Breton, que beaucoup de nos cicatrices d'enfance sont des traces anciennes de chutes de vélo. Hein.
Oui, absolument. Ça, je crois qu'on pourrait tous en faire l'inventaire. Mais en même temps, c'était un moment émerveillé de découverte. On découvrait petit des compétences qu'on n'aurait jamais imaginées. Le moment où nos parents enlevaient les roulettes.
Ah oui. On s'en souvient tous. Olivier Razemont. Olivier Razemont.
En ce moment, ce qui est intéressant, on faisait cette réflexion ce matin en venant, c'est que les seules personnes dont on voit le visage en ce moment, c'est les gens qui sont à vélo en ville, parce que ils n'ont pas forcément le masque, c'est pas obligatoire quand on est à vélo. Et alors les piétons l'ont, par contre, les voitures on voit pas forcément à travers les vitres teintées, etc. Donc c'est les seules personnes dont on voit le visage. Et puis dans cette période-là, ce que j'ai fait, je raconte ce que j'ai fait simplement, mais depuis 3 semaines maintenant, depuis le deuxième confinement, tous les jours je suis allé faire mes courses à des endroits différents. L'attestation, le système qui se termine demain soir ou après-demain soir, faisait qu'on avait 1 kilomètre pour aller se promener. Mais par contre, pour les courses, il n'y a pas de kilomètre. On peut aller où on veut, dans la limite du raisonnable. Donc je suis allé à chaque fois faire mes courses dans un marché différent de Paris, où je vis. Et à chaque fois, j'ai découvert non seulement le marché lui-même, mais aussi le chemin aller, le chemin retour qui était souvent différent. Et finalement, ça m'a fait des petits voyages. Et je dois dire que si j'avais pas eu mon vélo pendant cette période, ça m'aurait beaucoup frustré, en fait. Ça m'a permis de passer cette période parce que chaque jour, j'ai fait un petit voyage.
Bonjour Elian, bienvenue.
Bonjour.
Ai-je le droit de te tutoyer? Tu as 9 ans. Je prends le...
Oui.
Bon, alors raconte-nous un peu ton plaisir de faire du vélo. Raconte-nous un petit peu.
Parce que ça nous fait plaisir. On pédale, ça nous fait du sport avant d'aller à l'école.
Mmh.
Et des fois, on fait des vélorutions, et voilà.
C'est quoi une vélorution?
C'est une manifestation pour inciter les gens à faire du vélo.
Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu ressens quand t'es assis sur ta selle de vélo, quand tu pédales? Quelles sont les sensations?
Du plaisir.
Ouais. Et ça se traduit comment? C'est quoi? Qu'est-ce que tu aimes? C'est le vent dans les cheveux, si tu en as, contrairement à moi. C'est quoi? C'est la sensation d'aller vite. Raconte-moi un peu. La montée?
Ouais.
Ah oui. Et est-ce que tu fais du vélo en famille également?
Oui.
Ouais. Olivier Razemont.
Oui, en fait, pourquoi la montée? Qu'est-ce que ça te procure, le fait de monter? C'est un peu dur parfois, non?
Non, c'est rigolo.
Tu changes de vitesse à ce moment-là?
Oui.
Tu te mets en danseuse?
Ouais.
Tu sors de la selle, tu montes, tu étais debout en fait?
Oui.
Voilà. Et tu fais ça tout seul ou avec tes parents? Quand tu vas à l'école, tu vas tout seul ou tes parents t'accompagnent?
Je vais tout seul avec ma petite sœur.
Ah oui, très bien. Et elle a quel âge ta petite sœur?
6 ans.
Ah oui.
Bon.
Super, bravo.
Bravo, et Elian, merci de nous avoir appelé. Et je cite cette phrase du journaliste Eric Fotorino qui dit que le vélo est un jeu d'enfant qui dure longtemps. Donc je te souhaite de faire du vélo un jeu encore très très longtemps. Merci de nous avoir appelé, Elian. Tiens, nous avons Irène Margaritis au téléphone. Bienvenue Irène.
Bonjour.
Vous êtes chef de l'unité d'évaluation des risques liés à la nutrition à l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Et on va évoquer avec vous quelques minutes l'activité physique des enfants. Alors là, on a eu Elian, hein, qui à 9 ans pratique le vélo de façon très assidue. Mais hélas, qu'est-ce que vous constatez chez les 11-17 ans? Ils sont très sédentaires.
Ouais, alors nous on a fait un constat, la majeure partie des 11-17 ans sont à la fois très sédentaires et plutôt inactifs.
Mmh.
Alors la majeure partie, c'est 2/3 hein, quand même.
C'est énorme.
2/3 d'entre eux, c'est énorme. Donc quand on parle de sédentarité, on parle de plus de 2 heures passées devant les écrans.
Mmh.
La sédentarité, donc dans ce cas-là, la sédentarité d'une façon générale, c'est... être assis, allongé, en dehors des heures de sommeil, évidemment. Et puis, ça se conjugue et c'est un effet cumulé sur la santé avec le temps d'inactivité, c'est-à-dire le manque d'activité physique, finalement, puisque ces 2/3-là ont aussi moins de 60 minutes d'activité physique par jour. Et ça les expose à pas mal de risques pour leur santé. Alors, à l'adolescence, des risques qui sont ceux qu'on énonce le plus souvent, c'est plutôt le surpoids et l'obésité. Ça, je dirais que c'est ce qui se produit dans l'immédiat. Mais aussi une sensation, moins de sensation de bien-être. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que l'activité physique, d'une façon générale, procure du bien-être pendant et après. Et le vélo, la pratique du vélo en fait partie. Et très souvent, ce qu'on dit aussi, c'est-à-dire que la question de l'activité physique, c'est pas seulement faire du sport de façon institutionnalisée. On n'a pas nécessairement besoin d'être vraiment proactif pour le faire. Pratiquer la marche ou le vélo, aller au collège ou au lycée ou à l'école en vélo, c'est vraiment une très bonne idée, comme le fait Elian, pour être actif, pour s'activer, pour diminuer ces effets-là. Et se sentir bien, finalement, avoir du plaisir.
Irène Margaritis, un autre chiffre très inquiétant, 49% des 11-17 ans présentent un risque sanitaire très élevé avec 4h30 de temps d'écran et 20 minutes d'activité seulement par jour.
C'est ça. Donc là, on cumule les risques et on les aggrave, c'est-à-dire pour nous, on parle d'exposition à des risques pour la santé, hein, et le seuil de 2 heures dont je parlais tout à l'heure et de 60 minutes, je dirais, c'est vraiment le seuil minimal ou maximal selon, mais au-delà de 2 heures, 3 heures c'est pire que 2 heures, 4h30 c'est encore pire, et moins de 20 minutes c'est très grave, c'est-à-dire que ces enfants-là, ces adolescents-là sont aussi les adultes de demain, c'est-à-dire que ils prennent des habitudes, on leur fait prendre des habitudes aussi parce qu'on a un environnement qui est pas forcément toujours propice à l'activité physique et au déplacement, à ce qu'on appelle les déplacements doux dont fait partie le vélo. Et ces jeunes-là ne prennent pas les bonnes habitudes, ils ne goûtent pas au plaisir finalement aussi, à la fois de se sentir bien et de pratiquer. Ce sont les adultes de demain qui, au-delà de ces effets-là, vont aussi malheureusement s'exposer à des risques pour leur santé. Et on ne parle pas seulement de mortalité, on parle aussi de morbidité, c'est-à-dire de temps de vie d'une qualité qui est diminuée, qui est moins bonne.
Mmh. Olivier Razemont, la pratique du vélo devrait être davantage inscrite dans les politiques de santé publique à destination des jeunes.
C'est en train de se faire, ça fait déjà 2 ans, c'est une promesse d'Elisabeth Borne qui était à ce moment-là ministre des Transports et qui dit faisons enseignant le vélo de manière systématique. Mais j'ajouterais simplement que certes les jeunes se comportent de cette façon, mais ils font juste l'exemple quel adulte passe moins de 4h30 sur des écrans aujourd'hui, c'est pas seulement les jeunes, c'est aussi l'exemple. Et au-delà de ça, on a toujours l'envie de protéger ses enfants, les mettant dans une grosse caisse en métal parce que on pense que là ils sont très très protégés, et donc y compris d'ailleurs à côté des écoles, il y a un enjeu qui est énorme, c'est aujourd'hui à côté des écoles, dans la centaine de mètres autour des écoles, enlever les voitures au moment de la rentrée des classes, de l'heure de rentrée et puis au moment de la sortie, de façon à ce que encourager ceux qui viennent à pied et à vélo.
Votre regard, David Le Breton.
Oui, bien entendu, je partage le constat un petit peu amer de cette enquête. Finalement, là, on a affaire à une enfance et à une adolescence assise, alors que par excellence, ça devrait être un temps de jubilation physique, un temps d'exercice physique. Et si on remonte une quinzaine, une vingtaine d'années en amont, on se rappellera tous que nous étions des enfants ou des adolescents qui courions, qui jouions au football, au basket, qui allions nous balader, qui allions nous baigner dans les rivières, dans les lacs. Et aujourd'hui, on invente, pour beaucoup, pas tous évidemment, mais on invente une enfance, une adolescence passive, qui oublie le corps. Mais en même temps, en oubliant le corps, on oublie que nous sommes des êtres d'activité, de créativité, etc. C'est un apprentissage de la passivité, d'une certaine manière, cet engouement pour toutes les technologies contemporaines de communication et d'information.
Tiens, nous accueillons Nathanaël. Bienvenue, Nathanaël.
Oui, bonjour.
Vous êtes professeur d'éducation physique et sportive. Alors vous faites beaucoup de vélo avec vos élèves, de troisième, notamment.
Oui. Alors en fait, je suis professeur de PS dans un collège des Vosges, à Certigny. Et je suis responsable d'une section sportive en plus des cours d'EPS. Donc, je propose à mes élèves des activités de pleine nature chaque semaine. Donc, ça va de la course d'orientation au kayak. Et effectivement, on fait beaucoup de VTT. Et j'ai deux groupes d'élèves. J'ai des 6e, 5e pendant 3 heures le mardi après-midi et des 4e, 3e le vendredi après-midi. Et là, par exemple, avec mon groupe de petits, là, des 6e, 5e, on va partir à la fin de l'année faire de l'itinérant en VTT. On va traverser une partie de notre département. Donc, on va faire 50 km par jour. On va dormir soit en camping, soit dans des refuges. Et puis, avec ce même groupe-là, quand ils vont être en 4e, 3e, ensuite, on va sûrement essayer de partir à l'étranger pendant une dizaine de jours.
Merci, Nathanaël, pour votre témoignage. Et je crois savoir, vous nous l'avez dit hors antenne, que David Le Breton a été votre professeur à Strasbourg, c'est ça?
Ah oui, alors ça, c'était vraiment un grand bonheur. Quand moi, j'ai fait mes études de STAPS à Strasbourg, j'ai eu de la chance de l'avoir... Ah oui. Dans mes deux premières années, donc c'était dans les années 90-92.
On aimerait tous avoir David Le Breton comme professeur. Merci beaucoup, voilà, Nathanaël. Irène Margaritis, avant de vous laisser filer, vous, quand vous venez à France Inter, en studio, vous venez avec votre vélo pliable. Hein. Vous êtes une grande adepte du vélo. Quel est votre bonheur à faire du vélo, Irène Margaritis?
Oh, un bonheur, un sentiment de liberté, un sentiment d'autonomie. Et puis ce sentiment de d'être avec soi, finalement, d'être avec soi dans un environnement physique et de se sentir exister, finalement.
Merci beaucoup.
Et le bonheur de l'activité physique, toujours.
Merci beaucoup, professeur Irène Margaritis, d'être intervenue dans cette émission. J'aimerais qu'on termine cette émission, David Le Breton, Olivier Razemont, avec le plaisir du cyclotourisme. David Le Breton, quel plaisir éprouvez-vous quand vous voyagez à vélo, plutôt à deux ou en famille?
Ouais. Oui, là aussi, on peut effectivement faire du cyclotourisme seul ou en couple ou avec ses enfants, par exemple. Ce sont des plaisirs un petit peu différents. C'est en tous les cas une manière de partage. Hein. Ce sont des formes de partage, de sociabilité, de transmission également, puisque quand on part avec ses enfants, par exemple, on peut leur transmettre un certain nombre de valeurs. En écoutant Nathanaël aussi tout à l'heure, je me disais que le vélo est une formidable entrer dans la débrouillardise, hein, un apprentissage du bricolage dans la vie quotidienne. Et c'est d'ailleurs ce que disait Zola, par exemple, dans son livre Paris, par rapport à l'affranchissement des femmes, à l'émancipation des femmes. Il y a un dialogue extraordinaire dans ce roman qui date de la fin du 19e siècle, où une jeune femme explique à un ami que si elle a une fille, elle lui apprendra immédiatement à faire du vélo, parce que quand on sait faire du vélo, on sait se débrouiller dans plein de choses de la vie quotidienne, parce qu'on apprend la débrouillardise.
David Le Breton, vous le dites dans votre livre, le cyclotouriste n'a de compte à rendre à personne sur son périple et sur son rythme. Ce qui frappe, c'est son sens de la solidarité. Et puis, plus que l'arrivée, ce qui lui importe le plus, eh bien, c'est le chemin, les bonheurs et les découvertes qui le jalonnent. Un mot de conclusion, Olivier Razemont.
L'avantage du cyclotourisme, c'est que c'est pas cher, on peut faire ça pas loin, on peut découvrir des choses, des paysages vraiment pas loin de chez soi ou pas loin de l'endroit où on se trouve. Et en plus, c'est adapté à tous les budgets, donc ça coûte pas cher, donc on peut dormir soit au camping, soit à l'hôtel 5 étoiles. Et de toute façon, après le lendemain, on a égalité sur son vélo.
Merci à tous d'être intervenus dans cette émission. Merci Olivier Razemont, retrouve vos papiers dans le monde. Merci David Le Breton, En roue libre est publié aux belles éditions Terre Urbaine. Dans quelques instants, vous retrouvez Thierry Lhermitte, ambassadeur de la Fondation pour la Recherche Médicale.
jour, je reste dans ma nuit. Je vais pas faire sans. C'est bon, je change de canal. Je veux pas qu'il y ait un slick qui me sert de canap. J'ai du mal à vivre dans cette mauvaise vie qui fait. J'ai du mal à suivre sans cette mélodie qui fait. Nanana, nanana, nanana.
Hervé interprété le premier jour du reste de ma vie. Diffusion ce soir sur France Inter du concert le 9 décembre, pardonnez-moi, le 9 décembre du concert triple affiche Aide à la scène française, enregistré au Bataclan et présenté par Laurent Goumard et Marion Guilbeault avec Hervé, Barbara Carlotti et Del Grès. Et ma réalisatrice me dit que c'est le 5 décembre. Thierry Lhermitte, tous les mois, vous visitez un laboratoire pour la Fondation pour la Recherche Médicale. Rappelez-nous les missions de la FRM qui entame cette semaine sa campagne nationale d'appel aux dons.
La FRM, elle finance des recherches sur toutes les maladies. Cette année, c'est 47 millions d'euros qui sont donnés à plus de 400 projets. Et c'est c'est le premier financeur biomédical de l'ensemble des maladies en France.
Alors Thierry, Bruno Canard vous a récemment ouvert les portes de son laboratoire à Marseille. Il est directeur de recherche CNRS dans le laboratoire architecture et fonction des macromolécules biologiques. Et son équipe travaille sur les virus émergents, dont le coronavirus. Ses travaux sont donc soutenus par la Fondation pour la Recherche Médicale. Au cours de cette rencontre, vous avez échangé avec ce spécialiste des coronavirus sur ses recherches, mais surtout à travers ses travaux sur la nécessité de soutenir la recherche fondamentale pour se préparer aux épidémies à venir. Il en a profité pour faire un point sur les avancées en termes de traitement et de vaccins contre la Covid-19. Depuis quand Bruno Canard travaille-t-il sur les coronavirus depuis l'épidémie de Covid-19
de... Non, depuis des années. En fait, l'entrée de son équipe dans le monde des coronavirus a commencé en 2002, par la découverte d'une découverte sur le virus de la dengue, qui n'est pas un coronavirus. Son équipe a identifié une enzyme qui protège le matériel génétique du virus dans la cellule infectée. La communauté scientifique des coronavirus s'est rendue compte que l'enzyme de la dengue était probablement également présente chez les coronavirus. C'est pourquoi Bruno Canard a été invité à un congrès sur ces virus en Hollande en 2003 pour en parler. Et à ce moment-là, l'épidémie de Strass s'est déclaré. Le Strass, vous vous souvenez, le syndrome respiratoire aigu sévère, était lui aussi dû à un coronavirus, le SARS-CoV-1. Et tous les chercheurs présents au congrès se sont rapidement organisés pour faire face à cette épidémie. Et Bruno Canard s'est retrouvé embarqué dans cette nouvelle aventure.
Et à cette époque, les États étaient généreux pour financer la recherche sur les virus émergents, mais ça n'a pas duré.
Et non, parce qu'en effet, en 2004, Bruno Canard a reçu des financements importants de l'Europe pour étudier les structures et les fonctions des protéines les plus conservées entre plusieurs virus, dont le coronavirus, pour ensuite pouvoir modéliser et élaborer des médicaments. Les chercheurs s'étaient dit alors que lorsqu'un nouveau virus apparaîtrait, il serait nécessairement proche de ceux qu'ils avaient étudiés, donc ils seraient prêts à l'affronter. Le projet a été un gros succès européen et a généré énormément de connaissances. Mais comme le SARS-CoV-1 a finalement disparu de la circulation en 2004-2005, et que beaucoup d'argent avait été investi sur le vaccin finalement pour rien, l'Europe et l'État français se sont alors désengagés de cette problématique de virus émergents à partir de 2008. Et là, ça a été un enfer pour retrouver des financements. À cette époque, l'émergence du séquençage à haut débit, notamment celui des génomes viraux, a capté beaucoup d'attention et d'argent, mais les résultats ont davantage contribué à la détection et au suivi des maladies infectieuses plutôt qu'à leur traitement. Et c'est navrant parce que si on prend l'exemple d'une des enzymes virales étudiées à l'époque et toujours aujourd'hui par Bruno Canard, la polymérase, c'est l'enzyme qui réplique le matériel génétique du virus. Eh bien, cette enzyme est quasiment la même chez le SARS-CoV-1 et le SARS-CoV-2. Donc, si à partir de 2003, on s'était acharné à trouver des molécules actives qui bloquent la réplication du SARS, on aurait aujourd'hui des médicaments efficaces contre la Covid-19.
Thierry, si je comprends bien, l'option du médicament contre les virus émergents est à privilégier.
C'est extrêmement important d'avoir un vaccin contre le Covid-19, bien sûr, et contre les maladies à venir. La vaccination, c'est essentiel. Mais contrairement à un vaccin qui sera efficace sur un type de coronavirus connu à l'avance, un médicament antiviral s'attaquera aux parties conservées des coronavirus présents et à venir. Et c'est en étudiant le mode d'action et la structure des virus actuels que les chercheurs réussiront à produire des données nécessaires à l'élaboration d'un candidat médicament actif contre tous les coronavirus.
Alors où en est-on justement du développement de médicaments contre la Covid-19 et les futurs virus émergents ?
Alors aujourd'hui, sur les 3500 médicaments que les laboratoires ont essayé de repositionner, c'est-à-dire des médicaments existants et indiqués pour d'autres pathologies, aucun n'a donné de résultat indiscutable contre la Covid-19. Les médicaments efficaces seront donc de nouveaux médicaments développés au long cours et qui seront issus de la recherche fondamentale. Et leur développement est en pleine effervescence. La stratégie, c'est d'agir sur deux tableaux. D'une part sur le virus lui-même, pour éviter sa multiplication dans l'organisme, et d'autre part sur l'orage cytokinique, cette inflammation délétère qui peut mettre en jeu le pronostic vital chez certains patients. De nombreux laboratoires sont en train d'essayer de renforcer la réponse immunitaire naturelle avec l'interféron. Alors, parmi les recherches originales, certaines portent sur les anticorps de lama. Vous savez, lama, l'animal, comme dans Tintin au pays de...
Qui crache beaucoup.
Voilà, exactement, qui crache beaucoup. C'est ce qu'on appelle des nanobodies sur lesquels des tests précliniques vont débuter. Alors, ces nanobodies sont faciles à produire. Ils pourraient être administrés par simple inhalation et efficaces pour l'instant in vitro pour neutraliser le spicule dans les cellules infectées. La protéine spicule ou le spike, c'est la clé qui permet au SARS-CoV-2 de pénétrer dans les cellules. C'est une des cibles de notre système immunitaire. Mais le problème avec le spicule, c'est qu'il varie d'un coronavirus à l'autre. C'est pourquoi Bruno Canard s'intéresse à deux protéines virales invariables, la polymérase et la protéase. Il pense que l'association antiprotéase et antipolymérase fera certainement un médicament efficace contre les coronavirus.
Et on le voit avec votre chronique, Thierry Lhermitte, il est fondamental d'aider la Fondation pour la Recherche Médicale. Comment on fait pour aider la Fondation ?
On peut donner, évidemment. Maintenant, je voulais rajouter un truc qui est important, c'est que sur les vaccins, pratiquement tous les vaccins ciblent justement cette fameuse protéine spicule, la protéine d'entrée dans les virus. Mais ce qui diffère d'un vaccin à l'autre, c'est simplement la manière dont la spicule est présentée à l'organisme pour qu'il s'entraîne à le reconnaître et soit prêt à se défendre. Il y a des vaccins inactivés, des vaccins qui donnent le spicule directement sous forme de protéine et d'autres qui le présentent sous forme d'ARN, comme ceux qui ont déjà prouvé une certaine efficacité. Alors, théoriquement, on peut assez rapidement préparer une épidémie, les hôpitaux, la population, mettre en place des diagnostics, mais quand on veut développer un médicament, c'est en s'appuyant sur la recherche au long cours, la recherche fondamentale, et ça prend des années, et c'est pour ça que la FRM est indispensable pour aider ces recherches.
Et comment on fait pour aider la Fondation pour la Recherche Médicale que nous aidons dans cette émission ?
Exactement. On peut envoyer un don sur frm.org et tout simplement, par SMS, on envoie le mot don, D-O-N, comme message, au 92-300 et 10 euros sont prélevés sur votre facture téléphonique, c'est tout simple. Et don sur 92-300.
Et pardonnez-moi, je vous ai coupé dans votre élan, Thierry Lhermitte.
Eh bien, merci, Ali.
Et on se retrouve le mois prochain, évidemment.
Avec plaisir. Hein.
Merci, Thierry. Alors, demain, nous attendons toutes vos questions sur les chats, que vous les aimiez ou non. Nous recevrons notamment le romancier Bernard Werber. Alors, je me suis emmêlé les pinceaux avec le concert triple affiche qui sera diffusé lundi 7 décembre.
Ah bah alors, petit bonbon.